à qui revient le mérite? À qui revient le mérite? Telle était la question aux États-Unis cet été, après que le président américain Barack Obama ait fait un certain discours sur l'économie. Quand on fonde une bonne entreprise qui profite à tout le monde, est-ce que c'est grâce au gouvernement ou grâce au dur travail des entrepreneurs? À qui revient le mérite? Alors, selon beaucoup d'Américains, vers la fin de son discours, Obama a fait une gaffe. Il a dit ceci aux entrepreneurs et aux commerçants. Il a dit, ce n'est pas vous qui avez construit ceci. Ce n'est pas vous qui avez construit ceci. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de votre réussite. Je sais que le président a ensuite clarifié ce qu'il pensait, mais c'était trop tard. Pour tous les responsables des petites entreprises, cette phrase était scandaleuse. Pour beaucoup d'entre eux, cette affirmation constituait un affront envers leur travail et leurs valeurs. C'était une atteinte à l'esprit d'entreprise que de suggérer que c'était le gouvernement qui était responsable de la réussite, alors que c'était eux, les commerçants, qui avaient travaillé dur et persévéré en dépit des obstacles. C'était eux, les entrepreneurs, qui n'avaient presque rien gagné pendant des années dans le seul but de créer quelque chose de leurs propres mains. Alors, qui est le moteur de l'économie? Le peuple ou le président? Alors, mon but n'est pas du tout de provoquer un débat politique aujourd'hui, ni de dénigrer le président de mon pays, mais ces remarques un peu maladroites du président me font réfléchir à la nécessité d'attribuer le mérite à ceux qui le méritent. Personne ne veut que sa vie et son travail ne soient pas estimés à leur juste valeur, n'est-ce pas? Alors, à qui revient le mérite? Il faut reconnaître ce qui est, n'est-ce pas? Dans cette discussion au sujet de l'économie, on peut débattre longtemps. C'est un sujet compliqué, je ne suis pas du tout expert dans ce domaine. Mais rassurez-vous, en théologie, l'étude de Dieu, qui est Dieu, la réponse est beaucoup plus claire. À qui revient le mérite? Selon notre texte d'aujourd'hui, tout le mérite revient à Dieu, le Père. Nous démarrons aujourd'hui une série de prédications sur l'Épître aux Éphésiens. Et nous allons examiner les 6 premiers versets. Mais d'abord, je voudrais vous présenter un peu cet Épître. C'est une lettre de l'apôtre Paul qu'il a écrite pendant qu'il était en prison, probablement à Rome. Un détail que Paul souligne au chapitre 3, verset 1, et encore au chapitre 4, verset 1. Les destinataires de la lettre sont les chrétiens de la ville d'Éphèse, ou de la région d'Éphèse, qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Paul a fondé cette église et y a travaillé pendant ses voyages missionnaires. Et si vous voulez plus de détails sur le travail de Paul à Éphèse, je vous encourage à lire le livre des Actes, le chapitre 19. Mais pas maintenant, s'il vous plaît, pendant la semaine. Je voudrais aussi vous signaler quel est le thème ou même les thèmes principaux de ce livre. Un sujet qui apparaît plusieurs fois au fil du texte et que nous allons découvrir notamment aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, c'est celui de l'unité de Dieu. L'unité de Dieu et de l'unité de l'Église. Notre Dieu, la Trinité, est complètement unifié dans son être, dans son plan rédempteur ou son plan de salut et dans ses actes. Le Père, le Fils et l'Esprit sont un Dieu en trois personnes qui œuvrent ensemble. Et l'appel à l'unité des chrétiens dans l'Église est basé sur le concept de l'unité de Dieu, autrement dit sur ce qu'est la Trinité. Avant de continuer, on va lire ce texte Et je vais inviter Jonathan de venir et lire Éphésiens chapitre 1. On va lire le verset 1 à 14.
Si vous avez vos Bibles blanches, le texte sur la page 766. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés, selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de t'être révélé et de t'être révélé de manière suprême dans ta parole, la Bible, et dans la personne du Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que par ton esprit, tu nous aides à comprendre ces paroles, à les mettre en pratique dans nos vies. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.
Amen. Merci Jean-Étan. Alors, les 14 premiers versets de l'Épître parlent de chaque personne de la Trinité. Vous avez probablement remarqué ça dans le texte. Et aujourd'hui, nous allons examiner particulièrement l'œuvre de Dieu, le Père, qui est soulignée dans les versets 1 à 6. Donc, on va étudier les versets 1 à 6 aujourd'hui. Alors, à qui revient le mérite? À qui revient le mérite? La réponse à cette question n'est pas très difficile. À Dieu, bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul commence par dire « Béni soit Dieu ». La réponse à cette question est liée notamment dans ce texte au plan de Dieu, à son plan qui concerne le salut. C'est à Dieu le Père que revient le mérite, et cela pour trois raisons selon ce passage. Parce que son plan a pour but sa propre gloire, parce que c'est Christ qui est au centre de son plan, et parce que son plan pour le salut des hommes, est parfait et efficace. Réfléchissons au premier point. La notion de la gloire de Dieu est très importante dans ce texte. Après l'introduction, les premiers mots de Paul soulignent le fait que Dieu est digne de louange. Le verset 6 nous suggère que Dieu mérite notre louange simplement en vertu du fait qu'il est. Le texte nous invite à célébrer la gloire de sa grâce. Autrement dit, le texte nous invite à célébrer un de ses attributs, c'est-à-dire son caractère, ce qu'il est. Remarquez que la célébration de la grâce de Dieu au verset 6 n'est pas conditionnée par le fait de recevoir cette grâce. Le caractère de Dieu est déjà une raison de glorifier Dieu. Le texte ne dit pas célébrer la gloire de sa grâce parce que il nous l'a accordé. Il dit plutôt célébrer la gloire de sa grâce que il nous a accordé. Dieu est digne de louange parce qu'il est Dieu, tout simplement. Mais ce n'est pas tout. Le texte nous dit aussi que c'est à Dieu que revient le mérite à cause de son plan rédempteur pour le monde. Ce qu'il fait est très important. Ses actes sont merveilleux. En fait, ce qu'on apprend dans ce texte, c'est que le plan et les actes de Dieu ont été décidés avant la fondation du monde. C'est pas mal ça, n'est-ce pas? Le Père a mis en place le salut par Jésus-Christ, le Fils, avant de créer le monde. Il connaissait déjà la rébellion de ses créatures avant qu'elles aient péché, ou si vous préférez, avant qu'elles péchassent. Il connaissait déjà leur besoin d'un sauveur avant qu'elles invitassent le péché et la mort spirituelle dans leur vie. Il avait déjà prévu d'envoyer son Fils par son amour et par sa grâce afin que nous fussions réconciliés avec lui. C'est tout pour le subjonctif aujourd'hui, désolé. Dieu le Père mérite donc notre louange à cause de ce qu'il est. À cause de ce qu'il est. Et il mérite notre louange à cause de ce qu'il fait. Si vous étiez là le dimanche dernier, Alex a souligné cette idée importante dans Exode chapitre 15. Quand on parle de Dieu, ce qu'il est directement et inséparablement lié à ce qu'il fait. Et ce qu'il fait nous révèle sa nature, son caractère. Ce n'est pas très difficile de discerner l'intelligence, l'attitude, les motivations de quelqu'un à partir de ses actes. Si on veut connaître quelqu'un, on doit observer, scruter ce qu'il fait et comment il le fait, n'est-ce pas? Par exemple, comment arriver à la conclusion que quelqu'un est un génie en musique? En lui mettant un instrument musical entre les mains, puis en écoutant. Peut-être que vous connaissez cette fameuse légende concernant le compositeur Mozart lorsqu'il était enfant. Le petit garçon a joué la partie du deuxième violon pour un morceau de musique assez difficile avec des musiciens professionnels. Et après avoir joué sa partie sans aucune faute, il a fait la remarque suivante. Il a dit, finalement, il n'y a pas vraiment besoin de répétition pour le deuxième violon. Pas mal. C'est souvent comme ça, n'est-ce pas? Ce qu'on fait révèle ce qu'on est. Et dans notre texte, le plan de Dieu, qui reflète sa grâce, nous montre que Dieu est toujours digne de louange. Pour nous, en tant que chrétiens, nous avons toujours des raisons et des occasions de louer notre Seigneur. C'est maintenant le moment de louer Dieu. Parce qu'il est déjà digne de louange. Il est digne de louange à cause de son propre caractère et à cause de ses actes rédempteurs dans le monde. Mais le deuxième point aujourd'hui, c'est que Christ est au centre du plan de Dieu. Cette idée apparaît dans chaque verset de ce passage. On voit ça dans l'introduction de ce texte aussi. Nous recevons les bénédictions de Dieu par Christ et en Christ, le verset 3. Nous avons été élus pour être saints grâce à Christ, verset 4. Nous sommes prédestinés à être adoptés en Christ, verset 5. La grâce du Père est donnée librement dans la personne de Jésus-Christ, verset 6. Christ est au centre des actions du Père. C'est un concept difficile à comprendre philosophiquement, mais avant la création du monde, avant le premier péché, avant que Dieu ait fait sa promesse au patriarche, il avait conscience de vous, de votre condition spirituelle et de votre besoin d'un sauveur. Sans Christ, il n'y a pas de bénédiction spirituelle. Sans Christ, selon ce texte, il n'y a pas d'élection au salut. Sans Christ, il n'y a pas d'adoption dans la famille de Dieu, Sans Christ, il n'y a pas de grâce qui sauve dans notre vie. Le plan rédempteur du Père est centré sur Christ. Je veux qu'on réfléchisse pendant quelques instants à l'importance de Christ dans le plan rédempteur de Dieu. C'est extrêmement important. Toutes les religions du monde sont d'accord sur le fait qu'il y a un problème, par exemple. Un problème de péché, un problème d'ignorance, un problème lié à la mort, un problème du fait de notre séparation de Dieu, un problème quel qu'il soit. Mais pourquoi Christ est-il nécessaire? Pourquoi la croix? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Les religions du monde nous offrent trois possibilités pour résoudre le problème. Première possibilité, Dieu pardonne tout simplement nos péchés. Dieu est bon, n'est-ce pas? Si Dieu le Père existe, par quelle sauvagerie sacrifierait-il son propre fils? Impossible. Si Dieu est tout puissant, il peut pardonner facilement aux pécheurs, d'un claquement de doigts, s'il le souhaite. Mais la Bible rejette cette idée. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Ce qui veut dire qu'il est différent de nous. Il ne tolère pas le péché. Il ne tolère pas le mal. Le mal et les péchés de l'humanité sont une terrible offense contre sa gloire et contre sa sainteté. Nous avons accumulé une dette énorme contre la sainteté de Dieu. Et quelqu'un doit payer cette dette. Ce qui nous amène à la deuxième possibilité. Dieu nous pardonne après que nous ayons payé cette dette. Pas mal ça. Si on prie souvent, si on est baptisé, si on respecte les règles, si on est gentil, Dieu va sûrement nous pardonner, non? Dieu est un Dieu de grâce, n'est-ce pas? Oui, on est d'accord. Mais comment payer une dette d'un milliard d'euros avec 3 centimes dans la poche? Comment payer une dette d'un milliard d'euros avec 3 centimes dans la poche? La Bible nous dit que ça, c'est notre situation. On ne peut pas mériter le salut. La troisième possibilité est donc la suivante. C'est que Dieu lui-même, le Fils, qui est sans faute, qui est sans péché, qui est sans transgression, vient sur terre et règle notre dette à notre place. Et en fait, il n'y a pas d'autre possibilité. Le bon médecin doit nous guérir. Peut-être vous avez lu dans le journal cette semaine, mais cette semaine en Suède, un homme de 72 ans est mort sur une table d'opération parce que, et c'est un peu triste mais drôle en même temps, deux médecins ont décidé d'aller prendre leur déjeuner sans expliquer à ceux qui les remplaçaient ce qu'ils avaient déjà fait dans le cadre de l'opération. Quelques minutes plus tard, donc pendant que quelques infirmières essayaient de retrouver ces deux médecins dans l'hôpital, le patient est mort. Cette anecdote illustre bien, je pense, le fait que nous ne pouvons pas nous réparer nous-mêmes. Nous avons besoin d'un bon médecin, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer réaliser un acte de chirurgie sur votre propre cœur avec quelques outils que vous trouvez dans votre cuisine et sans aucune connaissance de la médecine? Impossible. Impossible. Nous avons besoin d'un bon médecin. Nous avons besoin de Christ afin qu'il répare lui-même notre condition spirituelle. La croix de Christ est d'une telle importance. Si on croit en Dieu, mais qu'on laisse tomber la croix du Christ, il vaut mieux ne pas croire du tout. L'idée d'un Dieu trois fois saint, l'idée qu'un Dieu, trois fois saint, puisse simplement pardonner les péchés de tout le monde, et l'idée que nous puissions mériter le salut par nos propres efforts ne sont pas bibliques et ils ne sont pas logiques. Si on veut ignorer ou rejeter la croix de Jésus-Christ et les bénédictions spirituelles qui en découlent selon le plan rédempteur de Dieu, alors il vaut mieux se convertir à l'athéisme et passer le reste de sa vie comme nihiliste. C'est vrai. La croix du Christ occupe une place absolument centrale dans notre foi chrétienne. À cause de la croix, c'est à Dieu que revient le mérite. Troisième point. Le plan du Père est parfait et efficace. Cette idée nous est confirmée par la présence de deux mots dans ce texte. Le mot « élection » au verset 4 et le mot « prédestination » au verset 5. Le texte nous dit que tous les chrétiens ont été élus avant la fondation du monde et qu'ils ont été prédestinés pour recevoir les bénédictions spirituelles de Dieu. Les mots « élection » et « prédestination » veulent dire que Dieu construit notre avenir, qu'il connaît notre avenir et qu'il conduit notre avenir. Ça veut dire que Dieu vous connaissait avant votre naissance et qu'il avait un plan bienveillant pour votre vie. Alors je rencontre beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec ces concepts que sont la prédestination et l'élection. Mais ces idées ne sont pas si étranges. Elles résultent nécessairement du concept de la souveraineté de Dieu. Dieu n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Il n'improvise pas en réaction aux décisions des hommes. Au contraire, ce texte nous dit que Dieu sait d'avance ce qu'il va faire et qu'il le fait. On a l'impression des fois qu'on peut prendre Dieu de court et que chaque fois qu'on le fait, il faut qu'il révise son plan. On s'imagine que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit « Oh mince, que faire alors ? Ils ont gâché tous mes projets. » On s'imagine que lorsque la génération de l'époque de Noé est tombée si profondément dans le mal, Dieu a cherché désespérément à résoudre le problème. Mais en fin de compte, comme il n'a pas su se montrer assez créatif, il a laissé tomber et il a tout simplement détruit le monde par un déluge. On s'imagine qu'en constatant l'infidélité et l'idolâtrie de son peuple, Dieu a été surpris. Mais Dieu n'est jamais surpris par nos actions. Il n'y a jamais un plan B pour Dieu. Il sait ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous ferons. Quand on regarde un match de foot, on peut peut-être discerner quelle équipe est la plus forte, n'est-ce pas? Quels joueurs sont en forme, quelles tactiques vont être mises en place peut-être. Mais on ne sait pas qui va gagner, ni comment ils vont gagner. Par rapport à ces détails, il est impossible d'avoir une certitude. Mais l'univers ne marche pas comme ça. Dans l'univers, c'est Dieu qui a organisé le parti. C'est lui qui en a fixé les règles. C'est lui qui en a déterminé d'avance le résultat. Votre salut ne repose pas sur le hasard. Il n'est pas soumis aux accidents cosmiques. Si vous êtes chrétien, votre salut s'inscrit dans le plan parfait et efficace de Dieu, conçu avant la création du monde. Dans sa grâce, il a choisi de sauver des gens qui ne méritaient pas d'être sauvés. Il a choisi de sauver des gens parmi cette humanité qui le rejette, qui le déteste et qui se rebelle contre sa gloire et sa grâce. J'espère que vous êtes réconfortés par le plan parfait de notre Père céleste, le plan qui glorifie le Père et qui est centré sur Christ. Tout le mérite revient à Dieu. Je vous invite à la prière. Béni soit Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te remercions pour ce plan qui te glorifie, ce plan qui est centré sur Christ et qui est parfait et efficace. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui sauve. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, pour la croix. Au nom de Jésus. Amen.